toujours à l'écoute des mots pour le dire, sur le 91 MHz, sur l'agglomération Montpellier-Rennes, le 103.1 Radio Alliance Plus, des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, et nous venons d'entendre Georges Brassens le 22 septembre, c'est un 11 septembre deux fois, hein. Michel,
oui, alors,
les questions de cœur, c'est vraiment critique.
Tout à fait, en plus c'est l'équinoxe, c'est le début de l'automne. Dans sa chanson, donc, il y a une allusion aux feuilles mortes de Prévert. Hein. C'est la tristesse, justement, de la disparition d'un sentiment. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous, et c'est triste de n'être plus triste sans vous. C'est très beau, comme je pense à ce que disait Tibulle à propos de la femme qu'il aimait. Il disait en latin « Necte posse carere velim », c'est-à-dire « Et je ne voudrais pas pouvoir me passer de toi ». Donc, pouvoir se passer de quelqu'un, ne plus l'aimer, c'est peut-être plus triste que même de l'aimer dans la souffrance. Vous voyez, Redouane, c'est un thème bizarre, mais bon, l'idée du néant peut venir en nous quand on constate qu'un amour est défunt. Hein. Alors, les immortels ont disparu, le bouquet d'immortels, etc. Hein. Ces intermittences du cœur... finalement nous montre que dans l'amour nous sommes dans la passion et dans la passion nous sommes passifs, passion, passivité, patior, pati en latin, la passivité.
Je trouve que Léo Ferré l'a très bien chanté, justement, cet amour qui part, c'est avec une force, une voix, et c'est vrai que c'est du tout dans les sonorités, dans ces paroles de cette belle chanson, on sent un frisson, passer un
oui,
comment les sentiments peuvent être à ce point-là contraires.
Tout à fait. Et puis il y a une autre chanson de Brassens que je voulais passer, mais je passerai peut-être une autre occasion, c'est-à-dire « Il est des jours où Cupidon s'en fout hein. ». Cupidon s'en fout, c'est-à-dire Cupidon est au chômage parfois, où il fait la grève à certains moments. Hein. Et donc, vous voyez, l'absence... Je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est Hegel, où on l'invente, hein. Il vaut mieux... se perdre dans sa passion que de perdre sa passion, vous voyez ? Mais se perdre dans sa passion que de perdre sa passion. Donc, oui, Hegel disait « Rien de grand se fait sans passion hein. ». Alors, voilà, quand on considère justement la disparition d'une passion, eh bien, on est, dans l'enfer. Vous savez, Redouane, on nous dit, dans mon enfance, on nous menaçait des peines éternelles de l'enfer, hein. On connaîtra les peines éternelles. Mais on peut dire, vous voyez, Redouane, autrement, que l'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles, vous voyez. C'est qu'on ne peut pas souffrir toujours, hein, vous voyez. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance nous donnerait au moins l'envergure d'un destin. Hein. Mais non, un matin, après avoir beaucoup souffert, nous nous réveillerons, il fera beau, nous serons devant notre glace, hein, et en faisant notre toilette, nous constaterons que nous ne souffrons plus. Eh bien, certaines âmes, parfois plus sensibles que d'autres, sont moins effrayées par la douleur ou la souffrance que par le fait qu'elles ne durent pas, vous voyez. Donc, l'enfer, c'est qu'il n'y a pas de peines éternelles, il me semble. Je pense que vous n'avez jamais menacé vos ouailles des peines éternelles de l'enfer.
Non.
Bien sûr. Mais ils auraient tiré bien plus.
Je pense qu'il reste toujours une trace. Même quand on dit c'est une séparation à l'amiable, un divorce à l'amiable, reste quand même une fracture. C'est-à-dire qu'il y avait un projet, il y avait des sentiments, il y avait... quelque chose qui liait deux êtres, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ça n'y est plus. Alors, c'est comment on le gère, comment sentimentalement, c'est-à-dire on a investi, et puis tout d'un coup, comme la mer se retire, disait Brel, les sentiments se retirent, s'éloignent, mais il reste toujours, je pense, quand même, comme dans les strates géologiques, une trace de ce vécu.
C'est plus optimiste votre vision hein, que celle de Proust. Proust, par exemple, il termine un amour de Swann de la façon suivante. Swann qui a beaucoup souffert avec Odette, il a souffert de la jalousie, et puis à la fin, il a cessé de l'aimer, ou plutôt l'amour l'a quitté. Hein. Et alors à la fin, il se trouve en chemin de fer, et sur la banquette, il se dit lui-même « Dire que j'ai eu le plus grand amour de ma vie, dire que j'ai voulu mourir pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre, vous voyez ?» Alors qu'il a adoré ou adulé cette Odette, vous voyez. Donc, L'idée d'une trace qui subsiste, c'est quelque chose au moins à quoi, même si c'est amer, hein, on peut se rattacher. Mais si d'un seul coup l'amour nous quitte totalement, eh bien...
C'est qu'il n'a jamais été là.
on
pourrait dire.
Je veux bien vous croire. Proust ne serait pas de cet avis. Alors, pour terminer l'émission, nous allons parler de la partie intitulée « Lucidité meurtrière » dans mon livre, toujours dans le cadre de Eros. Hein. Qu'est-ce que j'entends par cela ? C'est que, qu'y a-t-il véritablement derrière Eros, hein, si on le voit lucidement, et en quoi justement cette perception lucide de ce que peut être Eros peut-elle nous tuer ? Alors, l'amour conçu comme un désir, comme Eros, est indifférent à son objet, et c'est donc un processus totalement abstrait. Les femmes, dit toujours Proust, hein, sont les instruments interchangeables d'un plaisir toujours identique, vous voyez ? Alors on peut qualifier ce genre de raisonnement de matérialiste, puisque le matérialisme consiste à expliquer le supérieur par l'inférieur. Ici, les nobles sentiments par le simple plaisir des sens. Et en effet, le mot « désir » est un beau mot, mais qu'est-ce qu'il recouvre ? Alors, certains ont souligné que dans Eros, c'est fondamentalement de l'instinct sexuel qu'il s'agit, de la libido, débarrassée de toutes ces sublimations au sens freudien, vous voyez ? C'est en quoi il y a lucidité, hein, je dirai après, ou encore, ou peut-être dans la prochaine émission, en quoi cette lucidité peut-être meurtrière, hein ? Alors je pense à tout ce que dit Schopenhauer de l'amour dans sa métaphysique de l'amour. Pour Schopenhauer, l'essentiel dans le phénomène de l'amour, toute poétisation effacée, c'est la manipulation de l'individu par ce qu'il appelle le génie de l'espèce, qui se sert de nous comme de pantins ou de marionnettes, tout simplement pour reproduire la vie. L'enjeu alors nous dépasse, et à travers nous, c'est simplement la vie qui veut se perpétuer, et elle choisit le désir pour cela. Alors nous croyons dans la relation amoureuse choisir notre partenaire librement, mais en fait nous ne sommes pas des individus autonomes, mais nous sommes de simples agents ou instruments impersonnels de la reproduction. C'est bien le cas de le dire, alors dans l'amour on ne compte pas en tant qu'individu, hein. Il dit que l'amour, c'est meditatio compositionis generationis futurae et qua iterum pendent innumerabiles generationes, c'est-à-dire la méditation ou le projet de la composition de la génération future dont dépendent à leur tour, hein, des générations innombrables. Alors bien avant Schopenhauer, Lucrèce avait eu les mêmes idées. Les hommes, dit-il, sont comme des coureurs et ils se passent le flambeau de la vie. Et quasi cursores uite lampada tradunt. C'est dans le De Natura Rerum, au chant 2, au vers 79. Et la description que fait Lucrèce de l'acte amoureux, qu'il voit de façon totalement extérieure et sans aucune implication ou empathie, donc d'une façon lucide effectivement, c'est une description farouche, sauvage. Et une fois l'acte accompli, une fois le plaisir goûté, surgit en nous quelque chose d'amer. Lucrèce dit « surgit amari aliquid », c'est toujours au chant 4 du De Natura Rerum au vers 1127. Et on connaît l'axiome latin selon lequel tout animal est triste après l'amour, hein, après le coït, hein, « omne animal post coitum triste ». Alors cela vient sans doute du fait que l'homme a eu le sentiment d'être manipulé, d'être victime d'un grand jeu qui le dépasse, hein, et dans lequel son rôle est infime. Je pense, par exemple, à ce que dit Valérie, à cet égard, dans le cimetière marin, belle strophe, hein, « les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu. » Alors Valérie était née à Sète, c'est un méditerranéen, et donc il est très sensuel. Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, on voit le côté farouche de l'union, si vous voulez, hein. Je répète que Eros est vu ici lucidement comme la libido, le désir sexuel, hein. Bon. Et tout va sous terre et rentre dans le jeu, c'est le jeu au sens de Schopenhauer, hein. C'est une gigantesque duperie, hein. L'égoïste poussé des générations futures qui veulent vivre, du vouloir vivre. Vous savez que le livre essentiel Schopenhauer s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Comme volonté, comme vouloir vivre, le monde est livré au désir de reproduction. La représentation, c'est la distance qui mène à ce regard lucide, précisément. Cette distance qu'a Lucrèce ou qu'a aussi Paul Valéry. Et c'est vrai que de voir l'amour de l'extérieur peut être désespérant. Comme Musset, par exemple, le dit dans une strophe de « La coupe et les lèvres ». Voici ce que Musset dit, « Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant les dents, s'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. » Alors, je prie les auditeurs de ne pas être choqués par tout ce thème-là, hein. Nous avons affaire à des démystificateurs d'Eros, des démystificateurs de l'amour, hein. Bon, et il est vrai que l'amour... Vu ainsi, peut apparaître quelque chose comme une gigantesque tromperie. Alors, Musset parle des gestes de l'amour, hein, ces muscles ardents, baisers muets, etc. Les gestes de l'amour sont-ils tout l'amour, hein? Bien sûr, on peut faire l'amour sans amour, c'est-à-dire sans sentiment. Et la chanson de Gainsbourg le montre, cette chanson que j'ai passée dans une émission précédente avec Birkin, « Je t'aime moi non plus ». Mais nous allons écouter maintenant une autre chanson qui s'appelle « L'amour sans amour » du même Gainsbourg, hein, où le thème est le même. Mais alors j'entends bien qu'une relation amoureuse peut se nouer sur les bases strictes du plaisir physique, hein, mais peut-être cette relation amoureuse le sera-t-elle toujours par défaut d'autre chose. Alors écoutons Gainsbourg.
Combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues. Combien de ces fleurs qu'on effleure et qui s'en trouvent puis se meurent. Que de larmes et de colliers au pied de mon lit ont roulé. Que de comédies, que d'ennuis pour de si frêles pierreries. Amour sans amour, amour sans amour, l'amour sans amour et sans visage. Amour sans amour, amour sans amour, sans illusion, sans orage. Amour de collège, comment ai-je pu oublier tes sortilèges? L'amour au hasard d'un regard t'a effacé de ma mémoire. Du jardin que j'ai saccagé, dont les herbes se sont couchées. Il ne reste rien, je le crains, que ronces mortes sans parfum. Amour sans amour, amour sans amour, amour sans amour, rien n'est plus triste. Amour sans amour, amour sans amour, mais qui sans amour existe? Combien j'ai connu d'inconnus, toutes de roses dévêtues.
C'était Serge Gainsbourg, cette voix qui était très propre quand il a démarré dans la chanson. Amour sans amour. Michel, amour sans amour.
Amour sans amour et sans visage, il dit. Sans visage. Et il dit, amour sans amour, rien n'est plus triste, mais qui sans amour existe? Vous voyez, dans le paradoxe là, c'est quelque chose à quoi on se rattache. Mais la plupart du temps, on se contente du plaisir, ce qu'on appelle le plaisir sexuel. Hein. On rêve toujours...
Mais c'est peut-être aussi ce qui nous différencie peut-être de l'animal. L'animal, quand il fait l'amour, c'est pour se reproduire. Il n'y a pas la notion de plaisir. C'est une sorte de mécanisme biologique qu'il doit accomplir pour sa survie.
Oui, je suis d'accord. Boire sans soif et faire l'amour en toute saison, voilà la seule chose qui nous différencie des animaux. C'est Bon Marché qui le dit, hein. Donc dans une de ses pièces, je crois que c'est Le Mariage de Figaro, hein. Bon, c'est vrai. L'animal a des saisons, hein, la saison du rut, etc. L'homme, c'est pas le cas. Mais peut-être que dans les gestes de l'amour, hein, l'homme toujours aspire à l'union des âmes, mais la plupart du, très souvent, hélas, il se contente du contact des corps. Hein, et dans les gestes de l'amour, quand il n'y a pas le sentiment, hein, à ce moment-là, il y a une sorte d'amertume. Hein. Les sensations, disait Rousseau, sont ce que le cœur les fait être. C'est-à-dire s'embellissent au contact justement du cœur. Mais s'il n'y a pas le cœur, il y a les gestes. Les gestes de l'amour ne sont pas l'amour. Hein. Mais pour beaucoup, on en reste simplement là. Hein. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles, hein, dit Musset. Alors, il ne faut bien sûr pas exagérer, il peut arriver que ces moments soient divins. Et la déception post-coitum, hein, dont j'ai fait état tout à l'heure, concerne d'ailleurs l'homme beaucoup plus que la femme. Hein. La dépression féminine se produit plutôt après l'accouchement, c'est-à-dire post-partum, hein, ce qu'on appelle le baby blues, hein, soit après le mariage, ce qu'on appelle le wedding blues. Hein. Lorsque la femme s'aperçoit que justement les projections qu'elle a faites sur son époux ne correspondent à rien de réel. Et peut-être que la déception du wedding blues après le mariage vient d'une attente excessive, du retour à une réalité sentie comme triviale, hein, du fait du retrait, comme je viens de le dire, des projections préexistantes. Ce serait donc le mythe de Psyché à l'envers. Psyché a découvert que son époux Cupidon était beau, hein, alors qu'il lui était interdit de le voir. Hein. Elle l'a vu, elle a eu peur. Bon, ensuite, elle a eu peur qu'il soit laid. Elle a découvert qu'il était beau. Et là, la femme découvrirait enfin non point la beauté de son mari, mais sa laideur, vous voyez. Donc je crois que hommes et femmes sont situés différemment sur ce plan. S'il arrive que par l'acte sexuel, l'homme soit dupé ou se sente dupé, la femme, elle, peut être dopée, hein, peut-être. Mais je crois qu'il ne faut pas tirer de ces constatations matérialistes une leçon de pessimisme excessif. Par exemple, certains ont tendance à lier systématiquement la sexualité à la mort, hein, Eros à Thanatos. Ça me semble assez problématique. Je pense en littérature à Georges Bataille et au cinéma à Oshima, l'auteur de L'Empire des Sens, qui est un film qui a fait scandale, qui est sorti en 1976. Son titre, littéralement, était « La corrida de l'amour », vous voyez. Alors, paradoxalement, les excès sexuels qui sont décrits ici à foison, avec surenchère, aussi bien chez Bataille que chez Oshima, dans une optique passablement morbide, peuvent relever au fond d'un certain puritanisme, puisque à la base se trouve la méfiance vis-à-vis du corps et une vraie peur de la sexualité. Alors, je pense que l'acte amoureux peut être une parfaite réussite épanouissante, mais alors, et ça je réserverai le développement pour la prochaine fois, dans cet acte amoureux, même quand il est réussi, eh bien, comme le dit Gainsbourg, l'amour est sans visage. Hein. Donc peut-être qu'on se déshabille en quelque sorte de l'humain dans l'acte sexuel pour se confier aux grandes mains de la vie. « Ces larmes, mon amour, n'étaient point larmes de mortel », dit Saint John Perse dans « Amer ». Il dit encore « J'ai cru hanter la fable même et l'interdit ». C'est très beau ça, hein, avec une hyperbate, « La fable même et l'interdit ». Et ainsi, quand toutes les transgressions sont peut-être possibles, hein, toutes les normes morales sont laissées de côté, on côtoie alors le territoire du surhumain. Et l'extase, au sens grec du mot, c'est une sortie hors de soi-même, extasis. Mais je réserve le développement pour la prochaine fois.
Alors pour ceux et celles, merci Michel, et puis pour ceux qui veulent déjà vous entendre, puisque vous présentez votre livre dans la ville de Palavas-les-Flots, j'allais dire l'amour à flot, mais la ville de Palavas-les-Flots, les affaires culturelles de la ville, donc qui vous invite à une conférence sur les méandres de l'amour de Michel Théron. Il y aura aussi la dédicace de l'ouvrage par Michel le vendredi 16 octobre au salon de musique. Roger Albanès, Maison du Temps Libre à Palavas-les-Flots, à 20h, rue des Lamparos. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, il suffit de téléphoner au 04 67 07 73 67. Si vous n'avez pas eu le temps de retenir toutes ces informations, n'hésitez pas à nous rappeler à la radio, et on se fera un plaisir de vous communiquer. Donc la date, le vendredi 16 octobre, donc vendredi demain, au Salon de Musique, Roger Albanès, Maison du Temps. Vous en saurez beaucoup plus sur les méandres de l'amour. Et avant de nous quitter, Michel, je vais commencer par trois proverbes. Et pour clore l'émission, je vous propose trois autres à méditer jusqu'à la semaine prochaine. Le premier est un proverbe sanskrit qui dit « La bouderie en amour est comme le sel, il n'en faut pas trop ». Un proverbe italien « L'amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux hommes ». Et enfin, je terminerai par un Jamaïcain, contrairement à ce qu'on entend du côté de la... du nord de l'Europe, travaille pour l'argent et marie-toi pour l'amour. Merci voilà. Michel, à la semaine prochaine.
Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous.